Qu'est-ce que dit donc notre maître? S'écria Jacotte en rentrant dans sa cuisine. Ne voilà-t-il pas ce pauvre cher homme qui leur conseille d'écraser le peuple, et il l'écoute? Je n'aurais jamais cru cela de monsieur Benassi, répondit Nicole. Si je réclame des lois vigoureuses pour contenir la masse ignorante, reprit le médecin après une légère pause, je veux que le système social ait des réseaux faibles et complaisants, pour laisser surgir de la foule quiconque a le vouloir et se sent les facultés de s'élever vers les classes supérieures. Tout pouvoir tend à sa conservation. Pour vivre aujourd'hui comme autrefois, les gouvernements doivent s'assimiler les hommes forts, en les prenant partout où ils se trouvent, afin de s'en faire des défenseurs et enlever aux masses les gens d'énergie qui les soulèvent. En offrant à l'ambition publique des chemins à la fois ardus et faciles, ardus aux velléités incomplètes, faciles aux volontés réelles, un État prévient les révolutions que cause la gêne du mouvement ascendant des véritables supériorités vers leur niveau. Nos 40 années de tourmente ont dû prouver à un homme de sens que les supériorités sont une conséquence de l'ordre social. Elles sont de trois sortes et incontestables. Supériorité de pensée, supériorité politique, supériorité de fortune. N'est-ce pas l'art, le pouvoir et l'argent? Ou autrement, le principe, le moyen et le résultat. Or, comme, en supposant table rase, les unités sociales parfaitement égales, les naissances en même proportion, et donnant à chaque famille une même part de terre, vous retrouveriez en peu de temps les irrégularités de fortune actuellement existantes, il résulte de cette vérité flagrante que la supériorité de fortune, de pensée et de pouvoir est un fait à subir, un fait que la masse considérera toujours comme oppressif, en voyant des privilèges dans les droits le plus justement acquis. Le contrat social, partant de cette base, sera donc un pacte perpétuel entre ceux qui possèdent contre ceux qui ne possèdent pas. D'après ce principe, les lois seront faites par ceux auxquels elles profitent, car ils doivent avoir l'instinct de leur conservation et prévoir leurs dangers. Ils sont plus intéressés à la tranquillité de la masse que ne l'est la masse elle-même. Il faut au peuple un bonheur tout fait. En vous mettant à ce point de vue pour considérer la société, si vous l'embrassez dans son ensemble, vous allez bientôt reconnaître avec moi que le droit d'élection ne doit être exercé que par les hommes qui possèdent la fortune, le pouvoir ou l'intelligence. Et vous reconnaîtrez également que leurs mandataires ne peuvent avoir que des fonctions extrêmement réduites. Le législateur, messieurs, doit être supérieur à son siècle. Il constate la tendance des erreurs générales et précise les points vers lesquels inclinent les idées d'une nation. Il travaille donc encore plus pour l'avenir que pour le présent, plus pour la génération qui grandit que pour celle qui s'écoule. Or, si vous appelez la masse à faire la loi, la masse peut-elle être supérieure à elle-même? Non. Plus l'Assemblée représentera fidèlement les opinions de la foule, moins elle aura l'entente du gouvernement, moins ses vues seront élevées, moins précise, plus vacillante sera sa législation, car la foule est et sera toujours ce qu'est une foule. La loi emporte un assujettissement à des règles. Toute règle est en opposition aux mœurs naturelles, aux intérêts de l'individu. La masse portera-t-elle des lois contre elle-même? Non. Souvent, la tendance des lois doit être en raison inverse de la tendance des mœurs. Mouler des lois sur les mœurs générales, ne serait-ce pas donner, en Espagne, des primes d'encouragement à l'intolérance religieuse et à la fainéantise, en Angleterre, à l'esprit mercantile, en Italie, à l'amour des arts destinés à exprimer la société, mais qui ne peuvent pas être toute la société, en Allemagne, aux classifications nobiliaires, en France, à l'esprit de légèreté, à la vogue des idées, à la facilité de nous séparer en factions qui nous ont toujours dévorés. Qu'est-il arrivé depuis plus de 40 ans que les collèges électoraux mettent la main aux lois? Nous avons 40 000 lois. Un peuple qui a 40 000 lois n'a pas de loi. 500 intelligences médiocres, car un siècle n'a pas plus de 100 grandes intelligences à son service, Peuvent-elles avoir la force de s'élever à ces considérations? Non. Les hommes incessamment sortis de 500 localités différentes ne comprendront jamais d'une même manière l'esprit de la loi. Et la loi doit être une. Mais je vais plus loin. Tôt ou tard, une assemblée tombe sous le sceptre d'un homme, et au lieu d'avoir des dynasties de rois, vous avez les changeantes et coûteuses dynasties des premiers ministres. Au bout de toute délibération se trouvent Mirabeau, Danton, Robespierre ou Napoléon, des proconsuls ou un empereur. En effet, il faut une quantité déterminée de force pour soulever un poids déterminé. Cette force peut être distribuée sur un plus ou moins grand nombre de leviers, mais en définitive, la force doit être proportionnée au poids. Ici, le poids est la masse ignorante et souffrante qui forme la première assise de toutes les sociétés. Le pouvoir, étant répressif de sa nature, a besoin d'une grande concentration pour opposer une résistance égale au mouvement populaire. C'est l'application du principe que je viens de développer en vous parlant de la restriction du privilège gouvernemental. Si vous admettez des gens à talent, ils se soumettent à cette loi naturelle et y soumettent le pays. Si vous assemblez des hommes médiocres, ils sont vaincus tôt ou tard par le génie supérieur. Le député de talent sent la raison d'État. Le député médiocre transige avec la force. En somme, une assemblée cède à une idée, comme la Convention pendant la Terreur, à une puissance, comme le corps législatif sous Napoléon, à un système ou à l'argent, comme aujourd'hui. L'assemblée républicaine, que rêvent quelques bons esprits, est impossible. Ceux qui la veulent sont des dupes toutes faites, ou des tyrans futurs. Une assemblée délibérante, qui discute les dangers d'une nation quand il faut la faire agir, ne vous semble-t-elle donc pas ridicule? Que le peuple ait des mandataires chargés d'accorder ou de refuser les impôts, voilà qui est juste, et qui a existé de tout temps. Sous le plus cruel tyran comme sous le prince le plus débonnaire. L'argent est insaisissable. L'impôt a d'ailleurs des bornes naturelles au-delà desquelles une nation se soulève pour le refuser ou se couche pour mourir. Que ce corps électif échangeant comme les besoins, comme les idées qu'il représente, s'oppose à concéder l'obéissance de tous à une loi mauvaise, tout est bien. Mais supposez que 500 hommes venus de tous les coins d'un empire, feront une bonne loi. N'est-ce pas une mauvaise plaisanterie que les peuples expient tôt ou tard? Ils changent alors de tyran. Voilà tout. Le pouvoir, la loi, doivent donc être l'œuvre d'un seul, qui par la force des choses est obligé de soumettre incessamment ses actions à une approbation générale. Mais les modifications apportées à l'exercice du pouvoir soit d'un seul, soit de plusieurs, soit de la multitude, ne peuvent se trouver que dans les institutions religieuses d'un peuple. La religion est le seul contrepoids vraiment efficace aux abus de la suprême puissance. Si le sentiment religieux périt chez une nation, elle devient séditieuse par principe, et le prince se fait tyran par nécessité. Les chambres qu'on interpose entre les souverains et les sujets ne sont que des palliatives à ces deux tendances. Les assemblées, selon ce que je viens de dire, deviennent complices ou de l'insurrection ou de la tyrannie. Néanmoins, le gouvernement d'un seul, vers lequel je penche, n'est pas bon d'une bonté absolue, car les résultats de la politique dépendront éternellement des mœurs et des croyances. Si une nation est vieillie, si le philosophisme et l'esprit de discussion l'ont corrompu jusqu'à la moelle des os, cette nation marche au despotisme malgré les formes de la liberté. De même que les peuples sages savent presque toujours trouver la liberté sous les formes du despotisme. De tout ceci résulte la nécessité d'une grande restriction dans les droits électoraux, la nécessité d'un pouvoir fort, la nécessité d'une religion puissante, qui rendent le riche ami du pauvre et commandent au pauvre une entière résignation. Enfin, il existe une véritable urgence de réduire les assemblées à la question de l'impôt et à l'enregistrement des lois, en leur en enlevant la confection directe, Il existe dans plusieurs têtes d'autres idées, je le sais. Aujourd'hui, comme autrefois, il se rencontre des esprits ardents à chercher le mieux, et qui voudraient ordonner les sociétés plus sagement qu'elles ne le sont. Mais les innovations qui tendent à opérer de complets déménagements sociaux ont besoin d'une sanction universelle. Au novateur, la patience. Quand je mesure le temps qu'a nécessité l'établissement du christianisme, révolution morale, qui devait être purement pacifique, je frémis en songeant au malheur d'une révolution dans les intérêts matériels, et je conclus au maintien des institutions existantes. « À chacun sa pensée, » a dit le christianisme. « À chacun son champ, » a dit la loi moderne. La loi moderne s'est mise en harmonie avec le christianisme. À chacun sa pensée est la consécration des droits de l'intelligence. À chacun son champ est la consécration de la propriété due aux efforts du travail. De là notre société. La nature a basé la vie humaine sur le sentiment de la conservation individuelle. La vie sociale s'est fondée sur l'intérêt personnel. Tels sont pour moi les vrais principes politiques. En écrasant ces deux sentiments égoïstes sous la pensée d'une vie future, la religion modifie la dureté des contacts sociaux. Ainsi, Dieu tempère les souffrances que produit le frottement des intérêts par le sentiment religieux qui fait une vertu de l'oubli de soi-même, comme il a modéré par des lois inconnues les frottements dans le mécanisme de ces mondes. Le christianisme dit aux pauvres de souffrir le riche, aux riches de soulager les misères du pauvre. Pour moi, ce peu de mots est l'essence de toutes les lois divines et humaines. « Moi qui ne suis pas un homme d'État, » dit le notaire, « je vois dans un souverain le liquidateur d'une société qui doit demeurer en état constant de liquidation. Il transmet à son successeur un actif égal à celui qu'il a reçu. « Je ne suis pas un homme d'État, » répliqua vivement Benassi en interrompant le notaire. « Il ne faut que du bon sens pour améliorer le sort d'une commune, d'un canton ou d'un arrondissement. Le talent est déjà nécessaire à celui qui gouverne un département. Mais ces quatre sphères administratives offrent des horizons bornés que les vues ordinaires peuvent facilement embrasser. Leurs intérêts se rattachent au grand mouvement de l'État par des liens visibles. Dans la région supérieure, tout s'agrandit.